Arrêt numéro 3, André Genet, ancien responsable aménagement de Technolac, et Anne-Cécile Duguy, du pôle aménagement Chambéry-Grand Lac Économie, présentent les principes d'aménagement de Technolac.
Bien, donc je me représente, André Genet. Je suis un des aménageurs historiques du site de Savoie Technolac, puisque à l'époque où la décision d'aménager ce site s'est prise au niveau politique, pour aller vite, une équipe de choc, on va dire, a été constituée avec des gens d'horizons divers, certains du comité d'expansion qui était l'outil de développement économique du bassin chambérien à l'époque, d'autres de la mairie du Bourget pour la partie administrative et financière, donc c'était M. Duchesne, moi-même pour la partie aménagement global, détaché, on va dire, par la Société d'aménagement de la Savoie. Et voilà, et c'est donc en 85 qu'on a pris possession du site, sachant que la première intervention, je dirais, contemporaine, importante sur le site, ça a été dans les années 30, la décision d'implanter sur ce site une base militaire. Donc, la grosse intervention, par contre, sur le site en tant que tel, on va revenir à nos sujets, c'est que tout ça, c'était du marais ou de la prairie humide ou de la culture plus ou moins drainée, a fait l'objet d'un remblaiement considérable, puisque quasiment toute la plaine a été remblayée sur, à la grosse, 200 hectares, c'est quand même pas rien. Tout a été remonté en gros d'un mètre. Donc inutile de dire que la biodiversité de l'époque, elle en a pris quand même un vilain coup derrière les oreilles. Mais la nature a toujours du répondant et ça s'est régénéré. Et voilà, donc l'activité aérienne est devenue après la guerre de 40, puisque c'était en sommeil à ce moment-là. Et puis à partir de la guerre d'Algérie, est devenue la base de référence des hélicoptères de l'armée de l'air. Donc, pour aller encore un peu plus vite dans l'histoire, 83, Charles Hernu, à l'époque ministre de la Défense, a décidé que cette base serait fermée, enfin, dans un plan national de restructuration de tout ça. Et en 2 ans, 85, on nous a remis la clé du site. Donc voilà. Et le site, par contre, dans sa constitution, était donc constitué d'une partie qui était construite à l'image d'un quartier de ville, hein, donc c'est cette partie-là. Alors, pas exactement sous cette forme, mais assez proche, finalement. Toute la partie côté lac, ici, était boisée, des boisements spontanés qui avaient franchi la route. Et puis, il y avait toute la plaine, ben, où, par définition, il n'y avait rien, puisque c'est rare qu'il y ait des forêts au milieu des pistes d'aéroport. Donc, a été mis en place des structures politiques pour porter tout ça, des structures civiles, je dirais, mais qui étaient des représentations des milieux économiques locaux pour réfléchir un peu à la destinée de ce site. Il fallait effectivement trouver, alors il y a eu plein d'hypothèses, je ne vais pas les parcourir. Finalement, il était décidé d'une part transférer l'université pour se donner des nouvelles capacités, notamment pour tout ce qui était scientifique et technique. Et puis le reste, donc, c'était la mode à l'époque, donc ça c'était en 85. Sous la forme d'un parc technologique dont l'idée est d'amener des entreprises un peu haut de gamme en relation avec l'université sur un même site. Alors a été mis en place une équipe de conception composée essentiellement d'un architecte de renom, c'était Jean-Louis Chanéac, et les paysagistes, donc c'était M. Mouret et M. Chêne, qui portait bien son nom. Et donc a été imaginé un plan d'aménagement et de composition plus axé, parce qu'à l'époque on ne parlait pas de biodiversité comme aujourd'hui, plus axé sur l'originalité d'un aménagement global, puisque là on avait une page blanche qui faisait 80 hectares, c'est assez rare quand même. Le parti qui a été pris, c'est de garder autant que faire se peut les trames de desserte existantes. Jean-Louis Chanéac, notamment, nous a inventé un concept comme seul un architecte peut le faire. Donc il a dit, on va faire des clairières technologiques. Il faut avoir de l'imagination pour dire, on va faire des clairières ici, alors qu'il n'y avait rien. Et donc, c'était parti de l'observation que cette zone marginale qui était boisée était propice effectivement à créer des clairières en essayant de conserver un maximum de végétaux, ce qui a été fait même au-delà de ce qui était convenu. Donc, ce qu'il a été imaginé, c'est de recréer une végétation, mais dans le cadre d'un préverdissement, de façon à recréer des trames végétales qui, avec le temps, permettraient de structurer l'espace et surtout d'isoler les bâtiments entre eux. Ça, c'est toute la première tranche qui est ici. Donc voilà, donc dès les années 80, premiers travaux sur le site 88, pour recréer les accès. Le préverdissement a été, une fois que la trame a été... Les trames secondaires, on n'y a pas trop touché, mais les trames primaires, vières, ont été aménagées et plantées tout de suite, en 89. Et ben, la plus représentative de cette démarche, c'est cette avenue-là, qui va à côté lac, là-bas, où on a l'impression qu'on est dans une forêt effectivement primitive, alors qu'au début, il n'y avait rien. On a planté des végétaux, comme ça, on en a planté 10 000 d'un coup. Ça nous a conduit aussi, alors par la force des choses, puisque le terrain, comme tous les aéroports, est plutôt dramatiquement plein, on va dire. Ce qui nous a posé beaucoup de problèmes, c'est l'écoulement des eaux pluviales, puisqu'à partir du moment... La partie piste était drainée, et ça allait tout droit au lac. Ici, c'était fait un petit peu à la va comme je te pousse. Donc on a pris le parti, et là aussi c'était un petit peu innovant, même si on n'a rien inventé en tant que tel. C'est de conjuguer donc nos préverdissements avec des noues plantées et donc de faire tous les collectes d'eau de ruissellement au niveau du sol. C'est-à-dire qu'il y a quelques tuyaux pour faire des traversées, etc. Mais globalement, c'est tout ça a été fait au niveau du sol. On a eu recours à un organisme, je pense que ça existe encore d'ailleurs, mais il y en a qui sont plus spécialisés que moi, qui s'appelle l'IDF, Institut de Développement Forestier, qu'on a pris en consultance et qui nous a défini une palette végétale après tout un tas d'analyses pédologiques. Et bon, on tablait sur nos petits arbustes, sur un taux de reprise 50-60%. En fait, on a eu 85% de reprise. Et on a zéro amendement, on a planté dans les cailloux du remblai primitif. Alors par contre, ça ne manque pas d'eau, puisque la nappe, elle est 1 mètre sous nos pieds, 1,50 mètre, allez. Donc, de fait, on a créé toutes ces trames vertes et qui prennent les eaux de pluie. Et bon, quand il y a des gros orages, etc., ben, elles se mettent légèrement en charge, puis moitié par infiltration, moitié par évaporation. Au pire, quelques jours, ben, ça sèche. Et en fait, il n'y a jamais eu de très gros problèmes par rapport à ça. Alors par contre... Et c'est l'intérêt du site, puisque après, là, ça n'apparaît pas sur la maquette, mais chaque programme a été plus ou moins planté. Et notamment dans ce secteur-là, on a plutôt renaturalisé le site qu'autre chose en l'aménageant, puisqu'on est parti d'hectares et d'hectares de goudron, quoi. Donc effectivement, l'approche initiale, c'était une approche paysagère avec un parti un petit peu original, qui a été respecté dans son esprit. Par ailleurs, donc sur le plan de la gestion de tout ça, parce que c'est bien gentil d'investir pour planter des arbres et gérer des zones vertes, des terrains de sport, etc. Mais donc a été créée une association syndicale assez basique dans son fonctionnement, une espèce de copropriété, quoi. Pas très démocratique, puisque c'était une des clés d'entrée pour les gens qui voulaient s'implanter sur le site. Donc tu veux venir sur le site, tu adhères à l'association syndicale. Ça a été un peu compliqué avec les deux, trois premiers. Après, ils ont compris que c'était leur intérêt. Ils étaient même tout contents d'être débarrassés du problème, moyennant une cotisation. Et on en a eu le contrôle très longtemps, puisque l'association syndicale était basée sur la propriété foncière. Et au début, ben, le terrain qui, entre-temps, avait été transféré à la collectivité... Au début, il n'y avait que du terrain collectif. Donc la collectivité était membre de droit et en premier lieu de l'association. Puis petit à petit, où les terrains sont consommés, sa part a diminué. Avec, bien entendu, des prestataires, des entreprises de paysage ou autres, dont certaines, Gontier pour ne pas la citer, s'est fait une espèce de rente, mais dans une dynamique positive, puisqu'ils ont fait évoluer les choses pour simplifier l'entretien, pour en diminuer le coût, etc. Et donc l'entretien a toujours été assuré, c'est ce qui fait La spécificité du site, c'est que l'entretien est assuré, il est fait partout au même niveau, et on a parallèlement, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire parce que c'est très important, on a interdit aussi les clôtures. Il y a zéro clôture sur le site, sauf besoin particulier de sécurité, etc. Autour de la plateforme à produits de l'université où il y a des trucs innommables, il y a une clôture. Enfin, globalement, il n'y a pas de clôture. Donc, ça donne tout de suite un autre état d'esprit. Donc, voilà, en gros, la position du site et son historique. Donc, finalement, une approche, encore une fois, paysagère. D'abord de viabilité, puis paysagère. Puis, de fait, par la force des choses, donc des systèmes d'écoulement d'eau et relativement originaux et qui ont prouvé que ça marchait bien. Et rester in fine la problématique, mais on rejoint ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, à savoir ça c'est la laisse, sujette à des débordements bien connus, à des inondations spectaculaires. La plus belle qu'on a vécue, c'est celle de février 90. Ça a conduit à l'établissement d'un PPRI, donc plan de protection contre les risques d'inondation, qui lui-même a accouché in fine du fameux bras de décharge dont on parlera tout à l'heure. Voilà, même, ça sera une anecdote pour finir, le dernier programme qui est ici, le plus près du lac et le plus près donc, de l'eau, c'est une zone qui n'avait pas été remblayée. C'est pour ça d'ailleurs que les arbres s'y sont installés spontanément. Et l'idée a été, donc c'était une idée à Jean-Loup Patéliache, hein, et de construire tous les bâtiments autour sur pilotis. Les bâtiments qui sont très légers, ces bâtiments métalliques très très légers, sont posés dessus. Et ça bouge, mais dans des proportions convenables. Donc voilà, ça a même conduit à des choses originales.
Donc moi, je suis Anne-Cécile Duguy, je suis chargée d'aménagement à Chambéry Grand Lac Économie. Donc c'est la nouvelle structure en fait qui est en charge de l'aménagement et la gestion de Technolac, mais aussi de tous les parcs d'activité, toutes les zones d'activité sur le territoire Grand Lac et Grand Chambéry. Donc avant, j'étais chargée d'aménagement à Savoie-Xapole, au-dessus à mairie Vivier du Lac. Donc j'ai suivi un peu toute l'évolution des démarches environnementales. C'est vrai que Savoie Technolac, qui était géré donc par le CIPARTEC à l'époque, un syndicat mixte spécifique, a toujours voulu être dans l'innovation et dans l'excellence, et notamment dans l'excellence environnementale. Donc très vite, ils sont dans une démarche de certification ISO 14001, avec cette volonté de toujours s'améliorer sur les différents aspects, l'énergie, l'eau, les déplacements. Il y a eu un gros travail sur les déplacements, plan de déplacement inter-entreprise, et puis sur l'aspect, on va dire, biodiversité, sachant que, enfin, pour moi, Technolac, c'est vrai que c'est parti vraiment d'une démarche paysagère, et l'aspect biodiversité n'est pas venu, je pense, est venu avec le bras de décharge de la LES. Mais c'était vraiment cet aspect intégration, qualité de vie sur le site, etc. Et naturellement, on est rentré dans cette démarche d'amélioration continue. À Savoie-Xapole, on est arrivé un petit peu en décalage, mais on était aussi dans cette démarche-là. Et on a, donc sur Mairie, on a travaillé beaucoup avec la FRAPNA et la LPO, qui nous a aidé un peu à concilier à la fois l'aménagement et puis la prise en compte des milieux naturels, sachant que pour les zones d'activité économique, il faut des terrains plats pour construire des bâtiments industriels et tertiaires. Et les terrains plats sur le territoire, c'est souvent des zones humides. Et du coup, très vite, en fait, on est arrivé avec des enjeux forts des deux côtés. Et c'était indispensable d'être dans un dialogue un peu plus constructif et pas être juste bloqués les uns contre les autres. Parce qu'on peut à la fois aménager des terrains pour accueillir des entreprises et créer de l'emploi et tenir compte aussi de tous ces espaces naturels et de toute cette qualité de notre territoire. Donc Technolac qui est rentré dans cette démarche d'amélioration continue assez vite, et c'est un peu naturellement qu'on a intégré le contrat du bassin versant, contrat vert et bleu du bassin versant du lac du Bourget. Et on a, du coup, Chambéry Grand Lac Économie s'est engagé sur une action pour renforcer justement ces aspects biodiversité dans l'aménagement et la gestion des parcs d'activités économiques, notamment sur Technolac et Xapole, qui ont été donc ces deux parcs qui sont identifiés dans la trame à enjeu fort entre l'Épine et Bauge, donc la trame sud-lac. Donc dans ce cadre-là, on est en partenariat avec la FRAPNA, FNE Savoie et la LPO. on est en train d'élaborer de faire le point déjà, faire un diagnostic des secteurs sensibles, de toutes les actions qui sont déjà mises en œuvre et d'identifier un peu les pistes d'amélioration avec deux axes. En fait, c'est à la fois améliorer nos propres pratiques d'aménageurs et de gestionnaires des sites et puis après d'aller impliquer les entreprises et tous les usagers et les sensibiliser aussi aux enjeux de biodiversité. Donc c'est vrai que sur Technolac, il y a un prestataire, la Gontier, qui fait l'entretien de tous les espaces verts. Donc ça facilite aussi la mise en œuvre de meilleures pratiques. On travaille vraiment en bonne collaboration avec eux pour ajuster un peu leurs prestations. On est en train de repérer un peu les secteurs. On pourrait transformer les espaces enherbés en prairies fleuries, recréer des mares, limiter les interventions. On va repérer aussi des endroits où on pourrait installer des nichoirs dans les bâtiments, sensibiliser tout ce qui est entreprise et maîtrise d'ouvrage aux impacts sur les grandes surfaces vitrées. On a régulièrement des entreprises qui nous appellent pour dire qu'il y a des dizaines d'oiseaux morts au pied de leur façade. Donc ça, c'est un enjeu aussi important sur les bâtiments tertiaires et les bâtiments vitrés. Et puis on va travailler aussi sur tout ce qui est pollution lumineuse, donc avec un diagnostic assez précis de tous les points lumineux, tout l'éclairage public existant sur le site, pour regarder un petit peu les points à éteindre ou les lampes à changer, vraiment pour qu'il y ait le moins d'impact possible, et aussi en éteignant un peu plus longtemps une partie de la nuit. Et là, il y a une grande part de sensibilisation aussi à faire avec les entreprises du site, parce que la collectivité maîtrise tous les espaces publics, mais pas forcément tous les parkings privés qui peuvent être accordés sur les bâtiments. Donc il y a vraiment ces deux aspects, ce qu'on peut gérer en direct, et puis l'aspect sensibilisation et implication des entreprises. Ce que je trouve intéressant, c'est vraiment le partenariat entre aménageurs et associations écologiques, et d'être vraiment dans une démarche constructive et d'amélioration continue, et pas que chacun ne reste pas juste sur ses métiers. C'est que pour moi, l'aménagement du territoire, c'est vraiment, faut l'envisager vraiment de manière transversale.